Voilà, ben ça me fait plaisir de me retrouver dans mon église mère, hein, je veux dire, parce que j'ai grandi ici spirituellement. Et puis je donnais mon témoignage hier à Alain aussi, au Dercet, un petit témoignage. Puis vraiment, au niveau de l'église ici, ben, ils m'ont bien accueilli et ils m'ont aidé à grandir, quoi, et je suis très reconnaissant. Et puis je suis à la retraite depuis une année maintenant, et j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai une retraite très active. L'autre jour, je regardais une vidéo qu'on m'avait transmise, quoi. Vous savez ce que c'est qu'une fake news, hein, vous êtes au courant, quoi, je veux dire, quand même. Hein. Et puis les deepfakes, hein, aussi, hein, je veux dire. Ouais, c'est encore plus, quoi. Alors c'est marrant parce que l'autre jour, on m'a envoyé une vidéo, et puis sur la vidéo, il y avait Zelensky, et puis il y avait Trump qui était là. Puis on a tous vu ces images où Trump, il a vraiment apostrophé Zelensky, hein. Et puis même il l'accusait comme quoi c'est lui qui a démarré la guerre. Tu dis, attends, on est où là? C'est dans une vérité alternative, quoi, je veux dire. Et puis en fait, la vidéo continue, puis il y a Trump qui parle, puis d'un coup, il y a Zelensky qui vient, puis il lui donne un coup de poing comme ça, et puis il y a Trump qui tombe en arrière, quoi, je veux dire, de sa chaise, quoi, je veux dire. Puis c'était vraiment réel, hein, je veux dire, quand on regarde les images, on se dit, mais c'est vraiment la vérité, quoi, je veux dire. Et c'est fou, je veux dire, parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Et ça me trompe, quoi. Ça peut nous tromper. Si j'avais pas vu les images originales, je me suis dit, ben dis donc, Zelensky, il a foutu une à Trump, quoi, je veux dire. Et on pourrait vraiment le croire. Et puis, un autre truc que j'ai vu une fois, dernièrement aussi, c'était une influenceuse. Vous savez ce que c'est qu'une influenceuse? Les jeunes générations, bien sûr, hein, je veux dire. Mais il y avait une influenceuse super bien maquillée, très bien, jolie femme et tout, quoi, je veux dire. Et puis, elle parle de quelque chose et tout, quoi. Puis, moi, j'ai regardé un détail et tout d'un coup, je vois qu'elle avait des traces de scarification. Vous savez ce que c'est que les traces, hein? Donc, c'est des gens qui sont tellement en colère dans leur vie qu'au lieu de retourner la colère contre les autres, ils retournent leur colère contre eux-mêmes. Et ils ont tellement de mal qu'ils se font du mal pour enlever le mal qui est dedans par un autre mal. Je me disais, mais entre l'image que tu me donnes de cette femme qui vante quelque chose, puis qui paraît heureuse, puis qui paraît épanouie et tout, et ce que je vois là, ce n'est pas le même message. Vous comprenez, quoi? Et tout ça m'amène à une réflexion, me dire, mais aujourd'hui, en qui est-ce que je mets ma confiance? C'est ça. Je ne pense pas qu'on doit faire confiance à l'Apocalypse, mais on doit faire confiance à la parole. Mais la question, elle était là, de dire, mais dans nos différents domaines de vie, c'est qui a l'autorité pour me dire les choses dans lesquelles je suis censé croire? D'accord? Tout ce que je sais, je l'ai appris. Il n'y a rien qui est inné. Vous comprenez? On m'a transmis les choses. On m'a transmis par mon éducation, on m'a transmis par ma culture. Je vois qu'il y a des Africains parmi nous, ben, votre culture elle est différente de la nôtre. Mais, je veux dire, humainement, on est les mêmes. Mais la culture nous influence. Moi, je suis Suisse, j'aurais pu être né au Bangladesh, j'aurais pu être né au Soudan. Hein, vous savez, c'est ce genre de questions quand on a 14 ans, quoi. Pourquoi je suis suisse? Pourquoi je suis un mâle? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je suis ça, quoi? Enfin, jusqu'au moment où on accepte, quoi. Après, ça va mieux. Mais en général, c'est toutes des questions qui viennent en nous. Puis, comment est-ce que je me suis construit? Où est-ce que sont mes valeurs? Et en qui j'ai fait confiance? Alors, c'est sûr qu'il y a des domaines où je fais confiance. Le métier d'ingénieur, j'ai eu confiance dans mes professeurs. Je veux dire, dans les différents autres métiers que j'ai appris, ben, j'ai appris à faire confiance à ces gens-là, puis à prendre ça comme étant vrai. Pour le bâtiment, j'ai tout fait tout seul. Alors, des fois, ça se voit. Mais on corrige. On apprend à corriger par nos erreurs, hein. C'est pas vrai? Je dois dire que dans ma vie, j'ai plus appris par mes erreurs que par ce que j'ai appris à l'école. Et la vie, je l'ai plus appris par mes conséquences et les boulettes qu'il y a eu dans ma vie que par un bouquin de théologie ou les études que j'ai faites, quoi. Vous avez chanté ça, hein, c'est « Purifie mon cœur », quoi. Vous savez comment on purifie, hein, l'or? On le chauffe jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Et comme l'or est très lourd, les scories plus légères, elles montent à la surface. Et puis après, on peut écrémer, on peut enlever les choses, quoi. Bah, parfois, Dieu nous met sous température, hein. et ça chauffe. Ah, c'est chaud, hein. Et quelque part, ben, toutes les choses mauvaises montent à la surface et on peut les enlever, quoi. Ça, c'est la grâce. Et Dieu nous fait grâce, quoi. Donc, ma question de ce matin, c'est d'où vient finalement votre foi ? Parce que le mot foi, c'est le même mot en grec que confiance, pistis. Donc, d'où vient votre confiance ? Par exemple, pour des questions du style, c'est quoi le sens de ta vie ? Qui va te donner le sens de ton existence ? À quoi tu sers ? T'es qui ? Qui va te donner l'autorité pour être sûr de te donner le sens de ton existence ? Alors, le monde dit « débrouille-toi ». Chacun construit le sens de sa vie comme il le pense, en fonction des films, en fonction de tel influenceur, en fonction de l'expérience de vie, en fonction d'un copain, d'un livre. Enfin, il y a toutes sortes de choses dans lesquelles on peut croire. Et puis, les choses auxquelles on croit, ben, on va les éprouver, on va essayer. Et puis, si on est intelligent puis qu'on voit que ça ne marche pas, on va changer. Et puis, si on est fou, on recommence toujours la même erreur. C'est marrant, il y a des domaines dans ma vie où je suis fou. Parce que je refais toujours les mêmes erreurs, quoi. Jusqu'au jour où il y a une vraie guérison, une vraie libération, et là, à partir de là, on peut être libre et aller ailleurs, quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, je veux dire, mais la vie est ainsi faite. Et la question, c'est ça. Romain nous dit dans 10-12, c'est Paul qui nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Hein? » Et aujourd'hui, on commence à se méfier de ce qu'on voit, hein. Parce qu'on est une civilisation basée sur l'image. Mais Dieu nous apprend à ce que nous devons baser non pas sur les images, mais sur la parole. Et c'est ce qu'il nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Hein? D'accord, donc, quand vous écoutez la parole du Christ, est-ce que vous lui faites confiance ? C'est ça la question. Avoir la foi, c'est faire confiance. Donc posez-vous la question dans vos vies. Est-ce que vous faites confiance à la parole du Christ ? Alors c'est facile de dire oui, hein, mais quand l'épreuve elle est là, quand tout d'un coup on est perdu, quand tout d'un coup on est dans une situation où Dieu ne nous parle pas, où tout d'un coup on ne comprend pas, vous savez ce fameux pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas lui ? Lui il est plus méchant que moi, hein. Alors lui, il mérite quoi. Mais moi, je n'ai rien fait. Et la semaine passée, j'ai assisté à un enterrement de Matteo. C'est le petit-fils d'un ami à moi, je veux dire, qui était à l'église au Sentier. Il avait 14 ans. Il avait une malformation cardiaque. Et pendant un mois, le grand chirurgien qui s'appelle prêtre... Non, c'est pas la même chose, mais je veux dire, ça fourche contre la théologie, la chirurgie et tout, quoi, je veux dire. Et comme quoi on peut rire, hein, c'est très bien. Donc, ils se sont battus, quoi. Et puis, c'est à un moment donné, les médecins ont dit, on a fait tout ce qu'on a pu, on ne peut pas aller plus loin. Et il vit artificiellement au travers des machines, puis il faut le débrancher. Et le père... Il est allé vers son fils en lui disant, voilà, Matteo, je dois prendre la décision de te débrancher. Et il y avait tout le personnel qui était là, les chirurgiens, les infirmières et autres, quoi. Puis il lui a expliqué. Il lui a dit, écoute, Matteo, vraiment, merci d'être là, d'avoir été cet enfant qu'on a aimé et qu'on a accompagné. Puis maintenant, il me revient à moi la charge de mettre fin à ta vie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous identifier à ça. J'ai beaucoup de peine. Il est chrétien. Le père est chrétien. Matteo était aussi chrétien. Il y a eu des milliers de personnes qui ont prié pour la résurrection. Et le voilà au pied du mur. Et... tout le monde pleurait parce qu'il expliquait qu'est-ce qui va se passer. Tu vas aller rencontrer Jésus, tu vas mourir et tu vas être mieux là-haut qu'avec nous. Pour nous, c'est une perte. Il lui a parlé. Il a dit, voilà, sa confiance en Jésus et autres, quoi. Et le grand chirurgien prêtre et toute l'équipe, Ils se sont humiliés. Ils ont demandé pardon à Matteo parce qu'ils n'ont pas réussi médicalement à le sauver, quoi. Et tout le monde pleurait, était touché. Et ce gamin, il est parti comme ça, je veux dire, en ayant laissé un message profond dans la vie de ces chirurgiens, de ces soignants. Et en même temps, les 800 qu'on était à la cathédrale, il y avait toute la classe, les jeunes qui étaient là, et ils ont entendu le message comme quoi, je veux dire, il y a une vie après la mort et qu'il y a quelque chose de mieux après la mort qui nous attend et que pour y arriver, eh bien, ça se fait par Jésus-Christ et qu'on doit mettre notre confiance en Jésus. Qui est le spécialiste de la mort ? Qui est le spécialiste de après la mort ? Qui nous parle le mieux de après la mort ? J'ai lu des livres sur les NDE, hein, donc les Near Death Experience, donc c'est des gens qui, surtout en cardiologie, où ils meurent et puis ils reviennent à la vie. Et puis ils racontent ce qu'ils ont vu, quoi. Alors il y a une quinzaine d'étapes qui sont un peu toujours les mêmes pour tout le monde, quoi. Et alors la question c'est de savoir, mais est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est dans le cerveau ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu l'occasion de faire un IRM de quelqu'un qui était justement en train de vivre ça. Et ils ont vu qu'à un moment donné, il y a une explosion dans le cerveau qui se fait. Et puis, ils attribuent ça à un moment donné où la personne qui est en train de vivre ça, elle passe par une forme de jugement, dans le sens où la personne, elle voit sa vie défiler en un instant. Et tous les souvenirs reviennent. Et où finalement, beaucoup témoignent en disant ben, « j'ai vu ma vie défiler ». Et toutes les bonnes choses, les mauvaises choses sont venues comme ça, quoi. Et je me dis, mais Jésus nous a annoncé ça aussi. Et qu'on allait... Alors, ils s'arrêtent là, quoi. Tandis que Jésus, il a été plus loin. Et lui, il nous dit, il a préparé une place pour nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez ça ? Vous avez confiance ? Ou est-ce que vous croyez plus dans vos émotions, vos sentiments, ou les grands savants, les grands philosophes qui disent il n'y a rien, ou il y a ceci ou cela, ou il y a la réincarnation, hein, on tourne en rond pour sortir finalement puis rejoindre le grand tout. Oui, en qui est-ce qu'on a confiance ? En qui est-ce qu'on met notre confiance ? J'espère que dans vos couples, vous avez confiance l'un dans l'autre. Hein ? Parce que la confiance, c'est quand même la base de l'amour, vous êtes d'accord ? S'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'amour. Vous voyez, ça marche ensemble. Avec Dieu, c'est pareil. L'amour est donc aussi dans la confiance. Et pour les parents qui ont vécu cette mort atroce, qui est incroyable, en tant que chrétien, pensez, la responsabilité. Moi, je n'ai pas donné la vie à mon fils pour que je le tue. Pourquoi tu permets ça ? Et là, il y a des gens, ils vont dire, bon, ben, stop pour moi, c'est bon, je ne crois plus. Et moi, j'ai rencontré des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils étaient en colère avec Dieu. Mais comment tu ne peux pas croire en Dieu si tu es en colère avec lui ? J'attends, il faut que tu m'expliques, parce que là, je ne vois pas bien, quoi. Soit il existe, soit il n'existe pas. Tu ne peux pas être en colère avec quelque chose qui n'existe pas. Donc si tu es en colère, c'est que ça existe. Non ? J'attends, hein. Alors, soit on laisse tomber, ou alors tu es en colère avec quelqu'un d'autre, la vie, ou j'en sais rien, quoi. Je veux dire, mais laisse Dieu de côté, quoi. Tu le mets de côté, alors va au bout de ton raisonnement. Mais on est incohérent, on est humain. On a nos problèmes, quoi, chacun de nous, quoi. On a nos tensions, et puis on essaie de les résoudre, quoi. De nouveau, la foi, la confiance, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et pour moi, ça fait bientôt 50 ans que je connais Jésus, et je peux vous dire que cette parole de Dieu, elle est éprouvée. Elle est vraiment plus que solide dans tous les domaines. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y a quelques années, on m'enseignait la théorie de l'évolution. Et ben, oui, c'est bien, je veux dire, c'est intéressant et tout, je veux dire. Et puis, bon, ben, c'est bien d'apprendre les choses, quoi. Et puis, en fait, ce que je retiens, moi, c'est que qu'est-ce qui évolue ? C'est la théorie de l'évolution. Parce que là, elle change. Et ce qu'on m'avait enseigné il y a 50 ans en arrière, aujourd'hui, on me dit que ce n'est plus la même chose. C'est autrement. Et puis, il y a Hubble, pas Hubble, James, le nouveau, là, qu'ils ont envoyé. Et puis, ils ont découvert une galaxie où la lumière nous apparaît que depuis 700 millions d'années. Donc ça veut dire à peu près 15 milliards d'années ça a été créé. Et eux, ils ont la lumière de moins d'un milliard de cette galaxie. Puis ils disent, mais cette galaxie, elle est en train de mourir parce qu'il n'y a pas de lumière rouge. Enfin, c'est un peu technique, quoi. Et puis, on veut les croire, hein. Je veux dire, j'ai confiance en eux, quoi. Je veux dire, ils disent, cette galaxie, elle va mourir. Puis ça change notre conception du Big Bang et de la compréhension des choses, quoi. Bon, ben, c'est bien, je veux dire, ça change, quoi. Alors, j'écoute des théories, je grandis avec des théories, et puis ces théories, elles changent, puis aujourd'hui, les théories sont différentes, quoi. Oui, mais attends, à quoi m'accrocher? À qui faire confiance? Comment faire, quoi? Après, il y a aussi les philosophes, quoi. Alors, il y a des philosophes géniaux, je veux dire, je les aime beaucoup. On a d'ailleurs un bon prof là au milieu, il faut que je fasse attention à ce que je dis comme bêtise. Mais, il va me noter, là, je veux dire. D'ailleurs, il n'avait pas très beaucoup apprécié mes travaux, parce que je n'ai peut-être pas été à fond des trucs, quoi. Puis il avait raison. Je lui donne totalement raison, quoi. J'avais mérité ma note, quoi. Enfin, revenons en arrière. Les philosophies vous disent la position d'aujourd'hui avec les problèmes d'aujourd'hui. C'est comme, par exemple, les problèmes de psychologie. Ben, je veux dire, il y a des nouvelles maladies qui sont émergentes aujourd'hui. Hein, je veux dire, quand on parle de l'éco-anxiété, de notre génération, on n'en parlait pas. Ce n'était pas un souci. Vous comprenez? Il y avait d'autres problèmes. Donc les maladies aussi, elles évoluent. Les choses changent. On parlait pas de burn-out dans mon époque. Il y avait plein de choses qui viennent comme ça. Et je me dis, mais où est-ce que je peux mettre ma confiance? En qui est-ce que je peux croire? Et la Bible me dit qu'il ne change pas. Ça, c'est déjà pas mal. Il est toujours le même de ce qu'il a été, de ce qu'il est. D'ailleurs, c'est le mot de Yahvé, hein, YHWH, le fameux tétragramme. Je suis qui je suis et je serai qui j'ai toujours été. Ou j'ai été ce que je suis, que serai toujours. C'est difficile parce que c'est le temps en hébreu, c'est pas le même que la notion en français. Et c'est pour ça qu'on a traduit l'éternel. Il est hors du temps. Et mais il est toujours le même. Ça fait 50 ans que je l'ai et plus j'avance, plus je découvre son amour. Plus je découvre la profondeur de sa patience, plus je découvre la profondeur de sa miséricorde, plus je découvre qui il est et plus je peux vraiment l'adorer et lui dire, Seigneur, franchement, vers qui d'autre aller, quoi. J'ai fait 6 métiers différents avec des diplômes et autres, quoi. J'ai fait plein d'études parce que je suis quelqu'un de curieux puis j'aime étudier. Mais ce que j'ai compris de la parole de Dieu, c'est mon trésor. C'est ce qu'il y a de mieux dans ma vie. C'est ce qui me donne le plus de sens, c'est ce qui m'apaise le plus. C'est ce qui répond le mieux à toutes mes insécurités. Et même si aujourd'hui j'ai des pourquoi, c'est des pourquoi humains, mais j'ai confiance. Et c'est la confiance qui prime sur mes pourquoi. Vous comprenez? J'ai pas besoin de comprendre pour avoir confiance. Un enfant, hein, comme le petit-fils, là, comment il s'appelle? Chris Jonathan. Lui, il n'a pas besoin de comprendre, il a juste besoin de faire confiance. Vous comprenez? Être un enfant, c'est ça. Quand Jésus dit, soyez comme eux, faites confiance. Même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas, faites confiance. Vous comprenez? Et c'est à l'usage qu'on va découvrir que finalement, ben, il avait raison. Et c'était juste, quoi. Et moi, je suis maintenant plutôt vers la fin de ma vie que dans le début. Et je dois dire que je suis heureux d'avoir fait confiance à Jésus. Et je me dis, ça, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Vous savez, on fait le bilan, hein. À chaque âge, il y a le bilan. Les psychologues, ils disent la chose suivante. À 20 ans, on part à la conquête du monde. On construit, on étudie, on y va, on veut laisser une trace, on fait ceci, cela, là, 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 et puis on se bat pour faire quelque chose, quoi. Puis après, à 50 ans, ils disent, bon, ben, une fois qu'on a conquis le monde, qu'est-ce qui reste à conquérir? Soi-même. Et on part à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des crises de la quarantaine, quoi. parce que tout d'un coup, les choses qu'on n'a pas réglées, elles reviennent à la surface, puis nous dit, ok, est-ce que ces vieilles scories là, dans lesquelles elles remontent un peu à la surface maintenant, je veux dire, parce que ta crise d'adolescence, tu ne l'as pas bien vécue, parce qu'il y a des ceci ou cela qui ne sont pas faits, et bien voilà, c'est une deuxième chance que Dieu nous offre de pouvoir remettre un peu les compteurs à zéro. C'est une crise d'adolescence post-adolescence, quoi. On va dire un peu post-vie active, quoi. Et on se réfléchit parce qu'on est confronté à la mort de nos parents, on est confronté à la mort, à d'autres choses, puis à sa propre mort, forcément. Parce qu'à 20 ans, on pense pas à la mort. T'es d'accord? Hein? La mort, c'est loin. Hein? Moi, je vis pour l'éternité. C'est comme ça qu'on pense. On pense qu'on va vivre éternellement. Puis d'un coup, oups, la vie est passée. Comme ça. Et là, tout d'un coup, je comprends enfin les versets bibliques qui disent que la vie de l'homme, c'est comme une herbe. Elle pousse, puis elle part. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que je laisse, c'est qu'est-ce que je vais retrouver après. Parce qu'il y aura un bilan, il y aura un examen de ce que je laisse. Il va te dire qu'est-ce que tu as laissé de ta vie. Et moi, je suis sûr d'une chose, alors ce n'est pas biblique hein, ce que je vais vous dire là, mais c'est une conclusion que moi j'ai, on verra si j'ai raison ou pas. Moi, je pense qu'une des questions que Jésus va me poser quand je serai au ciel, il va me poser la question, est-ce que tu as assez aimé ? Est-ce que tu as assez aimé dans ta vie ? Puis là, ça change la perspective et la réflexion. Hein. Ce n'est pas biblique ce que je vous dis, puis en même temps ça l'est. Parce que quand on lit les textes, comme vous l'avez cité ici dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, hein, afin que quiconque croit et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu, quoi. C'est l'amour de Dieu. Et puis, un petit moyen mnémotechnique, c'est 1 Jean 3, 16. C'est que là, il nous est dit, car Dieu, Jean 3, 16, je vous l'ai dit, puis 2 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh! Est-ce que, à la fin de ta vie, quand Jésus te dira, est-ce que tu as assez donné ta vie aux autres? Est-ce que tu as utilisé les autres ou est-ce que tu as été utile aux autres? Vous comprenez? C'est des questions qui doivent nous interpeller. Et Jésus, c'est notre modèle. Et Jésus, lui, il n'a pas vu comme une proie à arracher, hein, nous dit Éphésiens, son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Et quand Dieu nous dit, mais aimez votre prochain comme vous-même, si vous n'arrivez pas à vous aimer, comment vous voulez aimer l'autre? Puis, qui c'est qui vous a dit que vous êtes aimable? Qui c'est qui vous a dit que vous êtes quelqu'un de bien? Ou quelqu'un qui a, où vous sentez bien dans votre peau, dans qui vous êtes? Alors, moi, je sais que physiquement, je ne suis pas Brad Pitt et je m'en fous. Parce que j'ai une femme qui m'aime pour qui je suis. J'ai trouvé une victime. Joke. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer que, quelque part, ce n'est pas dans le paraître qui est l'amour, mais c'est vraiment dans le geste, quoi. Et quand on voit Jésus, quand il fait le jugement à la fin, il dit aux boucs, allez là, et puis aux brebis là. Puis les boucs et les brebis, ils disent, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Puis quand on écoute ce que Jésus répond, c'est quand même fou, hein, je veux dire. Et il dit, enfin, il y a deux versets qui parlent de ça dans Luc et puis dans Matthieu. Et puis, dans ce texte de Matthieu, Il parle de, mais les boucs sont venus, puis ils ont dit, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? Et Jésus leur dit, arrière de moi, parce que, je veux dire, vous commettez le mal. Puis les autres, ils disent, mais Seigneur, quand avons-nous donné un verre d'eau à manger, une visite et tout? Et puis là, il dit, mais c'est chaque fois que vous avez visité un de mes petits, chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un d'autre, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, on peut avoir les dons spirituels qu'on veut, on peut avoir tout, mais si l'amour n'est pas là, c'est le sens de Corinthiens. Hein. 1 Corinthiens 13, c'est pris dans Corinthiens 12 et 14 avec les dons spirituels, mais la viande, c'est l'amour. Les dons, c'est le pain, en dessus et en dessous. Mais le vrai fond, c'est l'amour. Et je crois que si on a un vrai amour, par Dieu, les dons vont venir, comme confirmés. Mais le plus important, c'est l'amour. Et c'est ce que j'aimerais finir en vous encourageant et en vous disant, apprenez à vous aimer les uns les autres. Et dans le sens que la Bible nous dit aussi, supportez-vous les uns les autres, mais ce n'est pas dans le sens... Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a encore là, toujours le même et tout quoi. Non, mais dans le sens d'encourager, soutenir, aimer, accueillir. Et je crois que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'ils verront que nous sommes chrétiens. Et je crois que l'essentiel d'une église, c'est l'amour. Et d'où vient l'amour? Qui m'enseigne l'amour? Je crois que c'est Dieu. C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Peut-être qu'ils l'ont bien fait, et je suis reconnaissant parce que j'ai déjà, on va dire, un bonus au départ de la vie. Mais si dans ta vie, tu as été abusé par ton père, ou abusé par une mère possessive ou autre, quoi, je veux dire, de diverses manières où on n'a pas bien appris à aimer, eh ben moi je vous encourage à pardonner, à vous libérer de ça, et puis de demander que Dieu il vous donne, lui, le bon modèle d'amour, et qu'il vous enseigne à prendre soin de vous et à vous aimer. Et ça, c'est le bon modèle, et pas les influenceuses ou les autres, quoi. Parce que là, c'est des fakes, et puis ils ne vous amèneront pas plus loin que ce qu'eux, ils sont. Tandis que moi, je veux faire confiance au roi des rois, au seigneur des seigneurs, à mon créateur, et le laisser être, lui, de plus en plus, mon autorité, ma référence, ma confiance en toute chose. Et ça ne passe plus par mon besoin de comprendre. Je me souviens au début de ma foi, ou en tout cas avant même ma foi, je voulais d'abord que je comprenne pour pouvoir croire. Et maintenant, j'ai compris que je dois d'abord faire confiance et après je vais comprendre. C'est plus moi qui suis au centre, c'est Jésus. C'est lui ma raison de vivre. C'est lui ma pensée profonde. C'est lui, et je désire de plus en plus qu'il soit le centre de tout dans ma vie. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à découvrir. Enfin, voilà ce que j'avais sur le cœur. Et puis, j'aimerais vous encourager, Église de Bienne, à vous aimer les uns les autres. Et moi, je pense que si les gens, ils sentent l'amour, vous savez... Je ne sais pas si vous faites de temps en temps des pique-niques et puis que tout d'un coup, il n'y a rien. Et puis au bout d'un moment, vous avez plein de guêpes qui viennent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. Mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous avez juste à mettre les plats puis vous attendez. Et on ne sait pas comment, mais elles sentent la viande. Elles sentent les choses puis elles viennent. Quoi. Moi, je n'aimerais pas. Hein. Parce que ça, c'est ma viande. C'est à moi, ce n'est pas à vous. Quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais vous dire que les gens, ils ont tellement faim d'amour, de vrai amour, que quand ils sentent l'amour, ils viennent tout seuls. Ils sentent. Et ça, ça a été pour moi, dans ma vie, une des grandes stratégies de la croissance de l'Église. C'est aimer Dieu, aimer son prochain, aimer soi-même. Parce que les gens, ils en ont marre des fakes. Ils en ont marre des faux, des ersatz, des substituts. Ils veulent de l'authentique. Et moi, l'authentique, je l'ai en Jésus. Et plus j'apprends à l'aimer, plus j'apprends à vous aimer, et plus ça se sent, et les gens y viennent. Parce qu'ils ont faim et soif de vérité. Ils ont faim et soif d'amour. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend auprès de Jésus. Alors que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, et à vivre dans son plan et son désir à lui. Amen. Et ainsi, on construira le royaume de Dieu. à l'amour qu'on pourra avoir les uns pour les autres. Et je pense que si vous le vivez bien, cette église sera de nouveau pleine. Parce que c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui fait le nécessaire, ce n'est pas vous. C'est vous, mais au travers du Christ. Ou plutôt le Christ au travers de vous. Alors que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité que vous avez l'amour les uns pour les autres qui va faire la différence. Et c'est cette trace-là que vous allez laisser. Vous comprenez ? Amen. Ça donne sens ce que je vous ai dit ce matin ? On va prier, vous êtes d'accord ? Seigneur, on est tous des gamins, on est tous des débutants, on n'a jamais fini d'apprendre avec toi. Comment un Dieu infini peut se mettre dans notre fini à nous ? C'est impossible. Mais Seigneur, là où on en est, on aimerait te dire, on a envie de plus de toi. Seigneur, moi ça fait bientôt 50 ans que je te connais, mais j'ai jamais été rassasié de toi. J'aimerais encore plus. Et je sais que c'est bon, Seigneur, c'est bien de te connaître, c'est fantastique, Seigneur, de vivre une vie avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, pas de souci, comme on l'a vu avec l'histoire de Matthéo, mais tu donnes du sens, tu apaises les cœurs, tu donnes une direction, tu mets en nous ta confiance, et cette confiance, elle m'apaise face à ce monde qui bouge, qui évolue, qui change, qui se transforme, et qui me fait peur parfois. Mais Seigneur, toi, tu ne me fais pas peur. Et je te remercie parce qu'en toi, j'ai la paix. En toi, j'ai l'amour. En toi, j'ai la réussite de ma vie. Et j'aimerais te dire merci Jésus pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous précieux à tes yeux puisque tu es mort pour chacun de nous. Et tu nous as donné la valeur que toi, tu as donnée à celle de Jésus et à sa mort. Et donc, on est un prix infini à tes yeux. Et Seigneur, on te dit merci. Parce que nous tous, nous sommes appelés à te faire confiance de plus en plus dans tous les domaines de notre vie. Pardon pour les fois dans nos vies où on veut prendre le contrôle, où on veut nous devenir notre propre Dieu parce qu'on prend nos décisions. Puis résultat des courses, bien souvent, on est obligé de reconnaître qu'on s'est trompé et de nous repentir. Et la chose incroyable, c'est que tu recommences avec nous. Tu repars à zéro et on peut repartir avec toi. Quel bonheur, mais quelle grâce. Qui d'autre que toi peut donner la vie comme toi tu la donnes? Et on veut te bénir ce matin. J'aimerais te prier particulièrement pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont des pourquoi dans leur tête, qui sont légitimes. Même toi, Jésus, à la croix, t'as dit, mais pourquoi mon Père m'as-tu abandonné? Alors que c'était évident, c'était clair, c'était dans les prophéties et tout. Non, humainement, Seigneur, tu nous rejoins, tu nous connais. Alors j'aimerais te demander, aide les personnes qui sont dans les pourquoi à te faire confiance. À dire, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et je te demande que tu viennes apaiser les cœurs ce matin et que l'amour puisse grandir les uns dans les autres ici dans cette église et que, Seigneur, cet amour puisse rayonner de plus en plus dans cette ville et attirer, Seigneur, tous ceux qui sont en mal et en soif d'amour authentique avec toi. Seigneur, on vient devant toi pour te demander ta grâce sur toutes nos vies et on te remercie déjà d'avance pour tout ce que tu vas nous permettre de découvrir et de vivre avec toi. Amen. Amen.